Actu SF, les podcasts.
Le thème, c'est le corps, intitulé Le corps subi, qui est en fait plus ou moins une introduction à quantité de problématiques qui vont être développées cette semaine. Comme une qui a déjà été abordée, qui est le transhumanisme. On évoquera aussi la question du monstre, la question du regard de l'autre, etc. Mais avant tout, il faut partir d'un point qui est le corps lui-même. Vous naissez, nous naissons dans un corps que l'on n'a pas choisi. Donc ça ne relève pas de la notion de choix. Votre corps est d'entrée subi, c'est une réception passive. Donc déjà, votre relation au corps, à ce qui relève, peut-on penser, de l'intime, puisque c'est mon corps, c'est une relation qui ne tient pas la liberté. Vous naissez dans un corps, et ce corps, vous l'avez d'une certaine manière, nous l'avons malgré moi. Voilà. Comme on le disait tout à l'heure lors de la table ronde sur le transhumanisme, si vous naissez beau, tant mieux. Si vous naissez en bonne santé, tant mieux. Si vous naissez pas beau et en mauvaise santé, ben, c'est mal barré. Mais c'est comme ça. Voilà. Ça relève de la nécessité, pas du choix, pas de l'intention. Donc ce corps, en fait, pour utiliser un petit peu de terminologie philosophique, pour parler un peu chiffon, c'est ce qu'on appelle une adhésion prépersonnelle, c'est-à-dire que vous adhérez à votre corps avant même d'être une personne, un individu, une conscience, c'est-à-dire ce qui vous distingue, vous, par rapport à quelqu'un d'autre. Ce corps, il est là d'une certaine manière avant vous. Voilà. Bon. On le sent d'ailleurs dans quantité d'expressions usuelles que chacun utilise, comme « j'ai le corps lourd »,« j'ai la tête lourde »,« j'ai les jambes lourdes », comme s'il y avait une espèce de distance qui s'opérait entre une sorte d'observateur idéal qui serait le moi et son corps. On juge son propre corps. Bon. D'autre part, ce corps, il est inscription dans un monde, c'est-à-dire c'est par le corps que nous sommes en relation avec le réel. Bon, et là aussi, de nouveau, ça ne relève pas de la liberté, puisque ce réel, ce monde, il existe avant moi, il existe malgré moi, c'est-à-dire indépendamment de moi. Si vous préférez que le ciel soit magenta, ben pas de bol, il est comme ça, voilà, vous faites avec. Et le monde, il existera après moi. Et donc, ce sont ces deux inscriptions, ces deux nécessités totalement autonomes entre elles, qui sont le corps imposé et le réel imposé, qui vont définir ma place dans le monde, qui vont faire que je suis ce qu'on appelle un être au monde. Voilà. Donc, je suis inscrit dans le monde par une nécessité qui elle-même est inscription dans une nécessité, autrement dit, de contrainte. Toujours pas de choix là-dedans. Bon. D'autre part, de ce corps, je vais en faire un véhicule dans la mesure où mon corps, il est le seul moyen naturel, en tout cas, pour me déplacer dans le monde, pour me déplacer dans le réel. Ce qui fait que j'ai ce corps, c'est ce qui me permettra de changer continuellement d'ici en là-bas. Je ne suis pas comme un tournesol définitivement condamné à un ici, je peux aller dans un là-bas, et ce là-bas, c'est mon corps, c'est ce corps véhicule. Voilà. Bon. Donc la question, une des premières questions qui se pose, c'est est-ce que ce corps, il est mien, puisqu'il m'est imposé? Est-ce que ce corps, je le trouve approprié, sachant que la notion d'appropriation, elle a deux sens. D'une part, elle dit ce qui est la propriété, je m'approprie mon corps, et d'autre part, ça veut dire est-ce qu'il convient, est-ce que ce corps est convenable. Bon. Or, pour en juger, je ne suis peut-être pas le plus à même de me prononcer, puisque là, une heure et demie, ce sera difficile, mais assez rapidement, étonnamment, vous allez me voir plus que je me suis vu moi-même. Peut-être pas en une heure et demie, mais vous avez saisi l'idée. C'est-à-dire que, de manière étonnante, je suis plus visible pour les autres que je suis visible pour moi-même. Si vous réfléchissez, et sauf si vous passez du temps devant un miroir ou en vous penchant devant un étang, ce qui est très mauvais, ou à faire des selfies, ce que vous voyez de vous-même, ce sont vos mains. Dès qu'il faut voir autre chose de vous, ça suppose une gymnastique du corps et donc un état qui n'est pas spontané. Autrement dit, mon corps n'est peut-être pas ce qui est le plus visible pour moi-même. Ce qui est visible de mon corps, il est visible pour les autres. C'est-à-dire que je suis plus visible pour les autres et le regard des autres me constitue. Nous sommes perméable au regard des autres, au regard d'autrui. Bon, ça c'est assez connu, c'est-à-dire que cette idée qu'on serait insensible au regard des autres est complètement fausse, puisque non seulement le regard des autres va déterminer en grande partie mon comportement, mais le regard des autres, il est nécessaire à la constitution du moi. En grande partie, c'est parce que les autres me regardent que je vais avoir une image de moi-même. Bon, et c'est valable aussi ça pour le lien social. On ne va pas trop développer sur la question des enfants sauvages, mais chacun sait que la présence de l'autre, et donc de son corps, et donc de son regard, est totalement nécessaire à la constitution du moi. Est-ce que vous avez entendu parler d'un pharaon qui s'appelle Psamétique II ? Bon, il n'est pas connu, c'est pas Ramsès, hein. On a fait très peu de trilogies de fantasy sur Psamétique II, mais il a un intérêt, et qui n'est peut-être pas à son honneur d'ailleurs, c'est qu'il a inventé ce qu'on a appelé l'expérience interdite. Psamétique II avait entendu dire que les Phrygiens, l'actuelle Turquie, se vantaient d'être le peuple qui avait la langue la plus ancienne. Donc Pharaon, ça n'y a pas plu, sachant que la langue originelle des êtres humains ne pouvait être que l'égyptien. Donc, ni une ni deux, Psamétique II a fait isoler deux enfants d'esclaves, on ne sait jamais, hein, s'il y avait de la casse, ce serait moins grave. Et ces enfants, qui étaient des nourrissons, ils étaient justement nourris la nuit par un berger qui avait ordre de ne pas parler. La nuit pour qu'on le distingue le moins possible et de ne pas parler pour éviter de contaminer le langage que les bébés étaient censés développer et qui serait évidemment l'égyptien. Voilà, ça c'était le plan développé par Pharaon, sauf que l'expérience a duré plusieurs années et elle s'est soldée par un monumental échec, c'est-à-dire que non seulement les bébés, puis plus tard les enfants, n'ont pas développé de langage, mais ils n'ont rien développé du tout. Et cela, tout simplement, parce qu'il manquait la présence du corps de l'autre. Autrement dit, ce corps de l'autre que je subis n'empêche qu'il m'aide à me constituer. Bon, tout le monde connaît Victor de l'Aveyron, l'enfant sauvage, c'est exactement le même principe. Il y a aussi Hélène, à peu près contemporaine de Victor, qu'on appelait la folle de Chaillot, qu'on avait retrouvée dans un bois avant de la faire mourir, la malheureuse, au couvent de Chaillot. Jenny, Susan Wiley, vous connaissez vraiment, il faut. Je vous conseille le livre sur elle. C'est une enfant sauvage urbaine, c'est-à-dire qu'elle a été martyrisée par ses parents et elle a été enfermée dans une espèce de placard en plein cœur de Los Angeles. Et lorsqu'elle a été trouvée, elle a été confiée à des linguistes, à des psychologues, et là, ça n'a rien développé non plus. Ça, je vous conseille Susan Wiley. Faites une recherche. Susan Wiley, W-I-L-E-Y. Il y a un livre qui a été traduit sur elle. Il y a surtout un film documentaire, hein, pas d'acteur, qui a été fait. Et c'est poignant parce que elle, non seulement elle fait beaucoup de peine, mais en plus, elle montre... Là, je sais que je m'écarte, mais c'est important. Elle fait de la peine et elle montre les limites de ce qu'est la science quand elle ne s'embarrasse pas d'être humain. Vous voyez, quand elle considère l'être humain comme une grenouille. L'horreur dans cette histoire, on parle de Los Angeles en 1974, donc c'est pas si vieux, c'est que dès que les crédits ont été arrêtés, Jenny, on l'a mis dans un foyer, elle a dépéri, elle a involué, etc. Bon, bref, tout ça pour dire que la présence de l'autre est constitutive de mon moi, le regard de l'autre aussi. Tout le monde connaît... bien sûr, l'importance qu'on les regarde des autres, et même les jugements. Imaginez que, par exemple, on vous dise « Ouais, dis donc, tout à l'heure, aux Utopiales, il y a quelqu'un qui a dit drôlement du bien de toi. » Bon, ce quelqu'un, vous ne le connaissez pas, il n'est pas incarné, vous n'en avez jamais entendu parler, mais le simple fait que quelqu'un, quelque part, est tenu un jugement positif sur vous, ça vous flatte. Et l'inverse est tout aussi vrai. Si on vous dit, aux Utopiales, il y a quelqu'un qui a dit que vraiment, toi, t'es ennuyeux ou je ne sais quoi, ça va vous blesser. Autrement dit, ça introduit une autre catégorie qui est très intéressante chez la notion de corps subi, c'est ce qu'on a coutume d'appeler la présence de l'absence. Alors ça, c'est très important. C'est le fait qu'un corps est là, même quand il n'est pas là. Bon, il y a l'exemple... très simple de Sartre, qui pour une fois est en forme et donne quelque chose d'assez lisible, qui est « Je donne rendez-vous à quelqu'un dans un café, demain à midi. » Bon, j'arrive au café, il est midi moins 5. La personne n'est pas là. C'est normal, on a rendez-vous à midi. Donc, l'absence de l'autre m'est indifférente, puisqu'elle ne doit pas être là. Arrive midi, et la nature même de son absence va changer, parce que là, elle aurait dû être là. C'est-à-dire la qualité de son absence n'est plus la même. Et la manière indifférente que j'avais de regarder autour de moi les plantes de décoration, les autres consommateurs du café, deviennent maintenant des choses et des êtres qui ont un sens. Cette plante... elle est obstacle à la personne qui est rentrée dans le café mais ne m'a pas vu. Ce consommateur qui est au comptoir, il est lui-même obstacle, c'est-à-dire qu'il a fait que j'ai loupé le rendez-vous avec la personne. Ça, c'est à midi. Et à midi 5, midi 10, midi 15, la personne n'est toujours pas là. Et là, sa nature même d'absence change et installe ce que Sartre et d'autres appellent la présence de l'absence. C'est-à-dire que certains êtres sont plus là quand ils ne sont pas là. Bon, imaginez que vous ayez une relation amoureuse, nouvelle, tout est beau, c'est parfait, et vous attendez la personne, et il y a une sorte de richesse et de joie dans l'attente, dans le désir de cette personne. Et la personne arrive, évidemment, vous êtes content, et 5 minutes après, vous engueulez. La personne était plus là quand elle n'était pas là. Bon. Il y a le très beau poème de William Blake qui s'appelle Nobody, qui est un néologisme entre nobody et daddy. Très beau poème où Blake parle de l'absence du père. On ne sait pas pourquoi il est absent, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est parti. Absence qui devient présence du fait même qu'il n'est pas là. Et en plus, le poème de Blake sur l'absence du père est peut-être aussi un poème sur l'absence de Dieu, auquel cas l'absence du père résonne. Elle est absence présente. Voilà. Autrement dit, pour reprendre un peu tous ces éléments, ce corps, il m'est imposé. Je ne le maîtrise pas dans un premier temps. Il est étonnamment plus visible pour les autres, et ces autres sont toujours là, même quand ils ne sont pas là. Mais on est allé un peu vite, je suis allé un peu vite, sur la question du regard de l'autre. Ce qui pose aussi la question du jugement, de l'évaluation de mon corps par le regard de l'autre. Alors déjà, si on dit que vous êtes beau, vous êtes belle, ou vous ne l'êtes pas, ça parle de la beauté extérieure. Ça aussi, c'est très intéressant, c'est-à-dire que notre corps a fait l'économie, au moins du point de vue esthétique, de tout ce qui est beauté intérieure. Et je ne parle pas, bien sûr, de la beauté véritable, c'est la beauté intérieure. Non, je parle vraiment de la beauté physique intérieure. C'est-à-dire que la beauté physique intérieure n'est pas une question, n'est pas un enjeu, sauf peut-être pour deux ou trois internes en médecine qui disent « Oh là, quelle belle rate » ou « Quelle belle foi, quel beau foi ». Mais l'apparence, le jugement appréciateur du regard de l'autre se fait sur des critères qui sont extérieurs. Or, ces critères extérieurs, vous ne les maîtrisez pas. Par exemple, si on vous filmait de dos, vous ne vous reconnaîtriez probablement pas. Donc, qu'est-ce qui reste de mon corps ? Pas grand-chose. En plus, on pourrait digresser, disserter sur des curiosités. Peut-être que quelqu'un d'ailleurs a la réponse ici. Moi, je ne sais pas. On dit le bébé reconnaît ses parents. Ça veut dire quoi ? Le bébé reconnaît ses parents. Vous êtes grand comme, disons, deux bouteilles d'Evian. Et vous avez deux géants qui arrivent, il y en a un qui a une barbe, l'autre qui a des seins, et vous dites « Ah, je reconnais, c'est mes parents ». C'est quoi cette reconnaissance ? Elle est basée sur quoi ? Est-ce qu'elle est basée sur la reconnaissance du corps ? Non, certainement pas. Il y a un mystère quand même. Peut-être que quelqu'un a la réponse, moi je ne la connais pas. Comment l'enfant reconnaît ses parents ? Dans ce cas, il les connaît, mais il ne les reconnaît pas, parce qu'il n'a pas un modèle. Oui, que l'enfant connaisse ses parents par même la musicalité des sons, par les odeurs, etc. Ok, mais la reconnaissance, mystère, moi, je ne veux vraiment pas. C'est très curieux. Bon, en tout cas, nous voilà donc avec un corps qu'on ne maîtrise pas des masses, qui est visible par les autres, et qui donc devient un corps social. Alors là aussi, il y a beaucoup à dire, parce que dès lors que mon corps est encore vu, qu'il est encore évalué, qu'il est encore apprécié, il va devenir un corps soumis au jugement des autres. Et ce jugement va poser la question des critères. Alors déjà, dans la table ronde qui précédait, on a été un peu rapide sur la question de la normalité. C'est quoi la normalité chez l'être humain ? Aucune idée. Déjà, la normalité, la notion de norme, elle change d'une culture à l'autre. Ce qui est normal ici, il n'est pas forcément ailleurs. Mais mieux, la question de la norme change au sein d'une même culture, d'une époque à l'autre. Bon. Et puis, la question de la norme, de toute façon, pour l'être humain, ça ne marche pas parce que l'être humain est, alors pour parler un petit peu encore... chiffon, ce qu'on appelle excédentaire. Chacun de nous, chacun de vous est dans l'excédent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant que je vous parle, vous êtes en train de vous dire « Ouais, ouais, mais n'empêche que tout à l'heure, je dois aller acheter du jambon. » Ou alors, pendant que je parle, vous dites « Mais c'est quoi ce courrier que j'ai reçu ce matin ?» Donc, futur, jambon, courrier du matin, passé. Autrement dit, vous n'êtes pas, nous ne sommes jamais intégralement là. C'est-à-dire que nous excédons notre corps, nous excédons notre présence au monde, tout le temps. Pendant que je parle, ou même pendant que vous parlez, il y a quantité de ce qu'on appelle des moi potentiels qui travaillent un peu comme, vous savez, des sous-programmes en informatique, qui travaillent pendant que votre moi conscient est en représentation. Vous avez des moi qui sont en train d'exécuter des tâches ou de réfléchir à des problèmes ou de se désintéresser de ce que je dis, ce que je n'ose imaginer, mais disons que théoriquement, c'est possible. Quoi. Voilà. Autrement dit, nous ne sommes pas intégralement contenus dans notre corps. Souvent, dans la philosophie classique, on parle de corps comme l'enveloppe. Il y a ce fameux jeu de mots de Socrate. Alors, vous n'attendez pas à tomber de vos chaises de rire, hein, mais c'est un beau jeu de mots. Socrate compare le corps à un tombeau, ce qui en grec se dit pour le corps soma et pour le corps séma. Oui, bon, ça ne vous fera pas le samedi soir, vous ne risquez pas de briller en société, mais c'était assez joliment vu de la part de Socrate. Or, non, notre corps est beaucoup plus que ce qu'il est effectivement là. Bon. En parlant de corps et en parlant de normes, je vous invite à aller voir, à jeter un œil notamment dans les livres de Michel Foucault. C'est une vraie pépite à exemple sur le regard d'autrui. Par exemple, on parlait il y a quelques secondes du corps social, et il y a cette anecdote qui est terrifiante, qui remonte pourtant au début du XXe siècle, et qui est que un jeune couple, en France, hein, pas en France, un jeune couple va voir un médecin de famille qui le reçoit, et les deux, gênés, disent au médecin de famille que madame a des envies sexuelles. Alors déjà, on arrête là, on fait arrêt sur image. Un, l'un et l'autre vivent ça mal, et le médecin, au lieu de les renvoyer chez eux en leur disant bah, « profitez de la vie, vous êtes jeunes, etc. », prend en compte la demande. Donc il l'intègre dans un contexte médical et pathologique. Bon. Et là, le médecin, je rime, vous n'allez pas rire dans quelques secondes, le médecin dit bah, « écoutez, dans ce cas, pour soigner ce corps, puisque c'est un corps malade, hein, il va falloir que madame soit immergée dans un bain, un tub, à forte solution saline, jusqu'à ce que ça lui passe. » Bon. Et vous savez que quand on prend une douche ou un bain prolongé, on a les extrémités qui se frient. Bon, bah, madame a eu les muscles sphincters, c'est-à-dire les muscles qui retiennent tous les orifices qui sont relâchés. Elle s'est partiellement vidée de ses organes internes, elle est morte. Autrement dit, la notion de norme et la notion de corps social pose aussi. Bon, elle était guérie, hein, cela dit, elle n'avait plus de. Si la question c'était de régler le problème urgent de sa sexualité, la chose était faite. Ça, ce n'était pas un problème. Mais la question est de savoir aussi, par rapport à l'évaluation du corps, un, quelle est la pertinence, pour parler un peu sérieusement, de la question de la norme, elle est totalement relative, et aussi quelle est la pertinence de la normalité, c'est-à-dire est-elle dans l'instance qui juge ou est-ce qu'elle est dans le corps qui est jugé? Et justement, à ce sujet, le corps, qu'en est-il? Parce qu'on parle depuis le début de ce corps comme s'il y avait une distance, comme si j'étais dans mon corps, comme si j'étais une sorte de passager de mon corps. Platon parle d'un pilote dans un vaisseau, dans un bateau, dans un navire. Ce corps, il est assez facilement aussi corps-objet. Bon. Alors, et donc, bien sûr, il va introduire ce qu'on appelle la notion de désir. Bon. Si vous désirez un DVD, le DVD, il est indifférent à votre désir. S'en fiche. Vous désirez le DVD, ben vous désirez le DVD. Lui, celui est indifférent. Pourquoi? Parce que le DVD, il est en soi, c'est-à-dire qu'il est, il est DVD, il est plastique, il est à tel prix, plein de déterminations d'être, mais il est sans avoir conscience d'être. C'est un corps, puisque c'en est un, en soi. Bon. Si vous désirez quelqu'un, ce quelqu'un, précisément parce qu'il est quelqu'un, il est pour soi. C'est-à-dire que non seulement il est un individu, avec tel goût, avec telle passion, etc. Mais il est conscient d'être tout ça en tant qu'individu. Je suis et j'ai conscience d'être et je suis tant que j'ai conscience d'être. Bon. Or, lorsque vous désirez quelqu'un, si vous désirez ce quelqu'un, vous risquez de tenir un refus de désir. Peut-être qu'on ne partage pas votre désir. Ce qui fait que le désir, d'ailleurs, est différent de l'amour. Parce que lorsque vous désirez quelqu'un, vous ne désirez pas précisément quelqu'un. Vous désirez quelque chose. C'est-à-dire que pour que votre désir, je dis votre, mais c'est notre, en fait, hein, pour que le désir de chacun, pour que notre désir se développe à pleine mesure, il ne faut pas qu'il connaisse de restrictions. Or, si vous désirez quelqu'un, ce quelqu'un, à tout moment, peut s'opposer à votre désir, peut le refuser. Donc, lorsqu'on désire quelqu'un, on va abstraire tout ce qui fait ce quelqu'un de ses qualités personnelles, de ses qualités de conscience, pour le réduire à ce qu'on appelle, d'ailleurs, c'est une expression, un objet du désir. Donc, on ne désire jamais quelqu'un, on désire toujours quelque chose. Si ce n'était pas le cas, l'industrie pornographique, elle serait impossible. Lorsque vous désirez quelqu'un sur une image érotique, vous n'avez pas besoin de savoir si cette personne aime passer ses vacances en Lituanie en camping-car, ou c'est un bonus pour se faire semblant de personnaliser l'individu. Vous n'en avez pas besoin. C'est-à-dire que l'être photographié, il est immédiatement là, il est immédiatement donné en tant qu'objet, en tant que chose, et c'est ce que l'on appelle chosifier quelqu'un, justement. Lorsque vous chosifiez quelqu'un, ou comme le disent les anglo-saxons, lorsque vous objectalisez quelqu'un, je préfère objectaliser parce que nous, on a objet du désir, ça permet de faire une correspondance, eh ben, vous ne désirez précisément pas quelqu'un. Ce qui fait que le désir est différent de l'amour. Parce que lorsque vous aimez quelqu'un, non seulement ce quelqu'un, vous le considérez en tant que quelqu'un, mais vous ne le considérez pas comme votre égal, mais comme supérieur à vous. Autrement dit, désir et amour ne sont pas le même sentiment. Ce sont deux sentiments totalement différents. Et donc, ce sont deux rapports au corps au sens large, hein, c'est-à-dire le corps qui intègre une conscience, totalement différents, puisque dans l'amour, c'est un corps conscient que vous aimez, tandis que dans le désir, c'est un corps que vous avez privé de sa conscience. Ça va pour l'instant ? Bon, alors, toujours sur le corps social, il y aurait beaucoup à dire. Vous avez Kafka qui propose, sous forme d'œuvre, bien sûr, deux scénarios qui sont très intéressants par rapport au corps, mais au corps envisagé socialement. Ce sont deux textes courts qui sont des chefs-d'œuvre. Le premier, c'est la colonie pénitentiaire. Et le second, c'est la métamorphose. Bon. Alors, c'est intéressant parce que non seulement ce sont de magnifiques textes littéraires, mais ce sont aussi ce qu'on appelle des expériences de pensée. C'est-à-dire que ça nous permet de réfléchir. D'ailleurs, à ce sujet, il faudra qu'on parle d'autre chose tout à l'heure sur les expériences. On avait fait le mari temporel l'année dernière. Ah, ben voilà, c'est encore un corps qui change. Bon, donc on ne le fera pas. Voilà. Voilà tout ce qu'il a gagné, notre mari temporel. Alors, le premier texte de Kafka, La colonie pénitentiaire, c'est le pitch, c'est le suivant. Des forçats, des condamnés, arrivent sur une île. Tout le monde aura reconnu le système pénitentiaire français, hein, c'est le bagne de Cayenne, évidemment, celui qui a accueilli Dreyfus, hein, c'est transparent. Et dans la nouvelle de Kafka, lorsque la personne arrive sur l'île, la première chose qui se passe, c'est qu'elle s'allonge sur une espèce de table qui ressemble à un métier à tisser. Et là, il y a des aiguilles qui lui tatouent, qui lui impriment sa peine, dit Kafka. Or, plus le jugement est grand, plus il nécessite d'encre et donc de coups d'aiguille. Et Kafka précise que certaines personnes n'entrent même pas dans le bagne puisqu'elles meurent du fait de l'inscription de la peine. Bon, c'est brillant. Et au-delà de la bizarrerie de la machine, ce qui est intéressant, c'est ce que ça nous dit du corps quand il est évalué, quand il est jugé par l'autre. C'est-à-dire que lorsque vous commettez une faute sociale, vous n'êtes plus vous. Vous êtes votre faute. Elle est inscrite en vous. Vous êtes le voleur, vous êtes l'assassin. Vous n'êtes plus autre chose que votre peine. Et d'ailleurs, là, ça se juge même, ça se voit dans, par exemple, la tradition des tatouages dans les prisons russes. Les tatouages dans la prison russe disent deux choses. D'une part, une appartenance sociale, vous faites partie d'une communauté en vous tatouant. C'est-à-dire que votre corps vous appartient, mais vous n'en disposez pas. Ça, c'est intéressant. S'il y a bien une démonstration sociale du corps subi, outre le désir, c'est celle du marquage. Ça, on en reparlera. Et donc, dans les prisons russes, dans les gangs russes, mais aussi dans les prisons russes, le tatouage, il n'est pas libre. Vous n'êtes pas libre de choisir votre tatouage. Il correspond à votre rang, à votre dignité ou à votre crime. Par exemple, dans ce que la pègre russe appelle l'organisation, c'est-à-dire l'équivalent de la mafia, pour faire très simple, vous avez sur la poitrine un certain nombre d'étoiles qui indiquent votre rang. Vous avez aussi des clochers sur la poitrine ou dans le dos. Chaque clocher indique un temps de prison passée, un temps de peine purgée. Et puis à partir de là, vous avez toute une déclinaison de tatouages qui vont indiquer, sans que vous ayez à vous exprimer, littéralement à sortir de vous-même, qui vont indiquer ce que vous êtes. Par exemple, une toile d'araignée sur la nuque et le crâne indique que vous êtes un consommateur de drogue. Un petit lapin tatoué sur la hanche indique que vous avez tué un pédophile en prison. Ce qui reprend d'ailleurs une considération qui était celle de Platon dans La République, à savoir que même les brigands ont une loi, c'est-à-dire qu'un être humain ne peut pas se passer de morale. Il y a des crimes, y compris pour les criminels. Autrement dit, dans le marquage, que ce soit celui de Kafka ou celui bien véritable des prisons russes, on pourra parler des yakuza tout à l'heure, il y a une codification qui fait que vous avez une appartenance sociale, non par votre singularité, mais par les codes auxquels vous répondez au sein de la hiérarchie, au sein du crime, etc. Sans compter que, dans l'expérience du tatouage en prison, et alors que les prisonniers russes pourraient faire rentrer n'importe quoi, parce qu'il faut rentrer n'importe quoi en prison, il est, et encore de nos jours, hein, j'ai vérifié il n'y a pas longtemps, il est de tradition que le tatouage en prison soit fait à partir d'aiguilles ou de lames de rasoir, et surtout l'encre est obtenue à partir de talons de chaussures qui sont fondus au briquet dans de l'urine. C'est-à-dire que l'encre, c'est du talon délayé dans de l'urine. Le but étant, bien sûr, de provoquer une douleur, mais pas une souffrance. C'est-à-dire qu'elle doit provoquer une douleur, mais une douleur que vous maîtrisez et donc qui est la preuve de votre virilité et de votre courage. Ce qui nous amène d'ailleurs à une distinction qui est, on ne pourra pas tout dire en une heure et demie, mais qui est importante par rapport au corps subi, c'est celle que je viens d'évoquer entre la douleur et la souffrance. Toutes les douleurs n'entraînent pas des souffrances. Si vous avez mal au doigt, vous ne souffrirez peut-être pas. La souffrance, c'est quand la douleur s'impose à votre esprit. C'est-à-dire que certaines douleurs n'entraînent aucune souffrance, mais certaines souffrances ne connaissent pas la douleur. Il y a des souffrances mentales, par exemple, des souffrances morales, vous voyez. Bon, autrement dit, pour en revenir à Kafka, le tatouage, le marquage, est symbole de l'appartenance à la société. Mais l'autre texte de Kafka est tout aussi intéressant, c'est « La métamorphose ». Alors, probablement ici, certains le connaissent. Grégoire Samsa, qui est un jeune homme, se réveille un matin dans le corps de on ne sait pas trop quoi, si c'est un cafard ou un hanneton, en tout cas d'un insecte, quoi. Bon. On peut comprendre que c'est on va dire cafard, hein, pour faire simple, à titre générique. On peut penser que c'est un cafard géant, puisqu'il a une pomme dans le dos, à un moment. Donc, la famille n'est pas spécialement ravie de la métamorphose, pour le coup. Et alors que Grégoire, il nous est bien précisé, est celui qui fait vivre la famille, qui fait vivre ses parents, qui fait vivre sa sœur, la nouvelle se termine que tout le monde déteste Grégoire et que quand Grégoire meurt, tout le monde est soulagé. Bon. Voilà. Non, pas voilà. C'est-à-dire que Kafka est très habile parce que en nous donnant comme image à voir un cafard géant, ça neutralise. Mais ce que nous dit Kafka, c'est tout à fait différent. Ce que nous dit Kafka, en réalité, c'est imaginez que vous aimiez quelqu'un, beaucoup, que ce soit votre enfant ou la personne dont vous êtes amoureux, etc. Et que du jour au lendemain, cette personne, dans son corps, subit quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas et auquel elle ne s'attendait pas. Mettons une affreuse maladie de peau ou alors un accident qui va la défigurer. Est-ce que vous continueriez de l'aimer ? Question qui est troublante et question auquel, bien sûr, il n'y a pas de réponse. Parce que c'est exactement le type de réponse où si vous dites « Ah oui, bien sûr », vous mentez. Ou alors vous êtes tout simplement inconscient. Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse. Et pour ce sont des questions qui méritent d'être posées. Des questions, vous en avez justement ? Ça va pour l'instant ? Alors, comme on est dans le domaine de l'imaginaire, on va faire un... Oui ? Ah non, ça c'est quand on est amoureux.
Oui. C'est un présupposé ou c'est...
Bah, quand vous... En temps normal, vous pensez à vous. Vous pensez à vous, vous dites je dois me gratter la paupière, je dois aller acheter le journal. C'est-à-dire que, et c'est tout à fait normal et naturel, vous êtes centré sur vous. Oui ou non ? Vous êtes centré sur qui ?
Sur l'existence, sur ce qui se passe.
À partir d'où ?
À partir de mes perceptions, certes.
Donc à partir de vous.
Mais je ne me sens pas supérieur, ni je
ah non, non, non.
Comme quelqu'un de supérieur.
Ah ben, j'ai jamais dit ça, à aucun moment. J'ai jamais dit qu'on était...
Je vois pas le présupposé comme quoi le fait d'être amoureux de quelqu'un le rendrait supérieur. C'est peut être à côté, peut être plus proche, mais... Supériorité, ça. Enfin, j'ai 63 ans. Hein, j'ai...
Ah, c'est peut-être ça.
C'est peut-être ça. Mais, j'ai
peut-être... Fois, mais rappelez-vous au début.
Mais quelqu'un de supérieur, ça me parle vraiment pas.
Bah peut-être. Hein. Je pourrais botter en touche en disant bah, chacun comme il pense et comme il songe. Hein, mais rappelez-vous quand même au tout début, cette personne. Il y a deux sentiments chez l'être humain qui sont extrêmement intenses et qui font qu'ils ne sont pas l'opposé l'un de l'autre, c'est l'amour et la haine. Il n'y a que deux cas où on n'arrête pas de penser à quelqu'un. C'est quand vous aimez quelqu'un, donc là vous vous réveillez en pensant à la personne, dans la journée vous pensez à la personne, hein, et quand vous haïssez quelqu'un, c'est tout aussi intense. C'est pour ça que l'opposé de l'amour... C'est pas la haine, au contraire, c'est celui qui s'en rapproche le plus. C'est l'indifférence. Mais lorsque, souvenez-vous, au tout début, cette personne, vous y pensiez tout le temps, peut-être parfois de manière plus précise que ce que vous pensiez de vous-même, non ?
Bah, je dirais que c'est le cas de toutes les personnes.
Oui, donc c'est bien ce que je dis. Non, non, mais quand je dis supérieur, c'est pour vous. Vous pensez plus, si vous voulez, si vous préférez. Plus. Bon, ben plus, voilà. Oui. Bon. Alors.
Si notre réaction, c'était. C'est pas une question, ça m'a fait penser à Bourville, un film qu'une personne se faisait, sa compagne se faisait refaire le nez.
Oui. Ça me dit quelque chose, oui. Oui, oui, oui.
C'était une femme qui était laide, qui avait un nez poignant et qui se refait le refaire le
oui, c'est ça.
Nez,
oui.
Elle devient belle. Et lui, il ne supporte
pas
ce
changement.
Pas
du tout.
Je ne supporte pas ce changement.
Ouais. Enfin, c'est une réaction.
Maintenant, à l'inverse.
Bon, ça reste dans le cours subi, hein, cela dit.
Ouais. Tout à fait. À l'inverse, quelqu'un qu'on aime et qu'on voit tout le temps ne le remarque pas. Je vois que vous portez la barbe. À un moment, moi, je l'ai portée aussi. Je me suis rasé la barbe. Ma mère a mis un mois à s'en apercevoir.
Bah, je crois que si... oui, oui, bon, ok, oui, oui.
Ils ont dit ensemble.
Hein ?
Ils
Oui, oui. Bah, justement, c'est... Bah, parce qu'on le voit, mais on ne le regarde pas, justement. C'est le regard qui se neutralise. Oui, tout à fait. Mais j'allais dire un truc et je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Oui, tiens, quand même, pour rebondir sur Bourvil, mais de manière détournée, un livre justement sur l'importance de l'autre et la présence de l'autre intégralement, que ce soit par le corps et par le corps subi, c'est un livre de Schnitzler qui s'appelle « Mourir » et que je vous conseille parce qu'il est très bien. Il est d'autant mieux qu'il est très dangereux d'un point de vue d'écrivain, parce que les premières pages... Bon, l'histoire, c'est un couple jeune. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont aisés, ils s'aiment. Donc, tout le début de... C'est un très court roman. Tout le début, c'est du harlequin, c'est du sucre, vraiment, ça vous engourdit. Ils sont nunuches, vous voyez, dans leur promenade à vélo, habillés en blanc, etc. Mais en fait, ce qu'on ignore, alors qu'on est prêt à laisser le livre, hein, tellement il est poisseux de bons sentiments et tout, c'est que Schnitzler est en train de nous engourdir. Et à un moment, très tôt dans le récit, ce couple dont tout le futur est promis se dit... S'il y en a un qui meurt, l'autre meurt. Voilà, impossible de survivre à l'absence de l'autre. Justement, ce serait une absence trop présente. Alors, s'il y en a un des deux qui meurt, l'autre suit. OK, parfait, très bien. Allez, on va pique-niquer. Donc, alors, ça recommence, les balades en vélo, etc. Et à un moment dans le roman, lui va voir le médecin et qui lui dit, sans préavis, ben, il vous reste une année à vivre. Bon, alors il rentre très fier, à vélo, tout en blanc, etc. Et il annonce ça à elle, et elle lui dit « Non, bah, bien sûr, dans un an, je te suis, voilà. » Sauf que Schnitzler nous a amené jusque-là exprès, et c'est là que démarre le roman, et il va pousser le lecteur, c'est-à-dire vous, moi, à haïr ce type-là. Et on a envie que d'une chose, c'est que... Parce que elle, qui était tout entièrement sincère dans sa volonté de mourir, ben, les semaines passent, puis les mois, puis oui, je t'accompagne, peut-être pas tout de suite, on a j'ai du courrier à faire. Mais si, t'inquiète. Et en fait, lui devient inquisiteur. Et par exemple, il y a une scène où elle rentre du marché, il lui dit « T'étais où ?»« Ben, au marché, nanana. » T'étais pas au marché, parce que quand tu vas au marché, tu fais si, ça, ce qui te demande tant de temps. Or là, il manque 10 minutes, tu peux me les expliquer. Bon, bref, ça devient étouffant, et le récit nous amène à dire qu'une seule chose, c'est qu'on a envie qu'il crève, pas qu'il meure, hein, qu'il crève. Et ça, je vous le conseille, c'est remarquable. Mais là aussi, c'est un effet du corps subi, puisque tant que son corps n'est pas malade, et tant qu'il n'exige pas du corps de son épouse qu'il suive le sien dans la mort, bah, tout va bien. Alors, dans la même veine, vous avez un autre roman sur le corps subi et le corps social qui est très étonnant, qui est de Léopold Stern, S-T-E-R-N, qui s'appelle « La chair à zéro degré ». Et je suis étonné qu'il n'ait jamais été adapté au cinéma, celui-là. Ça commence dans les années 20 à Vienne, et il y a un homme très beau, héros de guerre, officier dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, et qui est directeur de banque. Donc tout lui sourit, il est décrit objectivement par le narrateur comme étant bel homme, etc. Sauf que lui, donc on passe du point de vue du narrateur au point de vue du personnage, lui trouve qu'il a des avancées frontales trop exagérées. Ça démarre de là. Hein. Donc on le voit à la fois, du point de vue du narrateur, dans son moi social, c'est-à-dire évoluant parmi les employés et les clients de la banque où tout le monde est sidéré par son charisme, et on le voit de son point de vue à lui, personnage, devant son miroir le matin, où il commence progressivement à se détester et à se persuader qu'il est non aimable par une femme. Il ne peut être aimé d'une femme. Bon. Et un jour, il reçoit sur son bureau un petit mot parfumé qui dit cette simple phrase « Je vous aime ». Donc lui pense c'est une plaisanterie, puisqu'il ne peut pas être aimé d'une femme, puisque son corps, je vous rappelle, c'est des avancées frontales, hein, puisque son corps ne peut pas être objet d'amour, pas de désir, d'amour d'une femme. Bon. Et puis il s'avère que ce petit mot n'est pas une plaisanterie, mais qu'il est en effet, effectivement, aimé d'une femme, une employée de la banque. Bon. Et ils vont donc sortir ensemble, et il y a un malentendu, puisqu'elle est amoureuse de lui. Lui réduit ses sentiments aux femmes à des satisfactions auprès de prostituées de haut vol. Donc il ne peut pas, ça ne colle pas à l'image qu'il a de son propre corps, il ne peut pas être aimé d'une femme, mais il l'est, et la résolution finit à l'ultime page, vous tournez la page, et il lui tranche la gorge d'un coup de rasoir, et fin du livre. Voilà, très étonnant livre, étonnant qu'il n'ait jamais été adapté, voilà, sur la notion d'image de soi, de représentation de soi. Alors, il y a, dans la même veine, hein, c'est le tri, il y a Mourir de Schnitzler, il y a La chair à zéro degré, et il y a un film japonais que je vous conseille, mais je ne connais pas le nom du réalisateur, c'est Audition. Quelqu'un l'a vu peut-être ? Audition. Là aussi, qui est remarquable, parce que vous me corrigerez si je me trompe, mais le début du film, c'est du Harlequin, en veux-tu, en voilà. Il est beau, quarantenaire hein, à peu près. Il est veuf, un beau veuf. Donc il y a des images, mais qui sont, c'est le sucre de Schnitzler, hein, c'est pareil. Il est au bord de l'océan, les cheveux légèrement décoiffés par la brise, etc. Et un de ses amis, puisque lui est réalisateur, lui dit qu'il faudrait quand même qu'il retrouve quelqu'un dans la vie, il est trop jeune pour ça, et que donc il devrait dresser les critères de la femme idéale et passer une audition. Voilà. Et donc il va passer une audition. Le choix de l'actrice est stupéfiant. Ce serait intéressant de savoir votre retour parce que personnellement, et là pour le coup c'est subjectif, je suis encore à me demander si elle est très belle ou dérangeante. Elle a un physique très étonnant et elle est étonnante hein, physiquement. Et les anges doivent être comme ça, selon que la manière dont on les regarde, ils doivent être très beaux ou effrayants. Bon. Et la fin du film, on n'en dira pas plus, mais c'est basé sur ce même procédé de rupture. Vous êtes anesthésié par des bons sentiments et tout à coup, ça dérape grave. Et une fois de plus, c'est sur le rapport au corps subi et la relation du corps. Bon, alors, on a évoqué le marquage, les tatouages. On aura l'occasion cette semaine d'en parler beaucoup lors des différentes tables rondes, mais chacun connaît ici les yakuza, bien sûr, la tradition des tatouages yakuza, mais on en connaît peut-être moins la genèse en général. Alors, yakuza, déjà, ce sont trois idéogrammes qui sont les abréviations de trois chiffres. Yakuza, c'est 893. 893, ça donne 20. Et 20, c'est égal à 0 dans un jeu de cartes qui était pratiqué au début du fin 19e, début 20e siècle par les bas-fonds de la société japonaise. Donc, Yakuza, 8, 9, 3 égale 20, 20, 0. Si vous aviez 20 en cartes, vous aviez perdu. Bon. Et par extension, Yakuza, donc 0, enfin 20 égale 0, a voulu dire nul, et donc est devenu une injure. C'est-à-dire que la bourgeoisie japonaise a commencé à appeler les gens de classe plus basse les Yakuza, sous-entendu les riens, quoi, les nuls. Bon. Et la pègre, par provocation, a dit « Ah bah puisque c'est comme ça, on est les nuls, ok, bah on est les nuls, on est les yakuza. » Bon. D'où l'origine du marquage, ce qu'on oublie trop souvent, parce qu'on connaît le dragon, mais les trois cartes tatouées sur les yakuza, hommes ou femmes, rappellent justement cette origine. Bon. Et puis il y a ce que tout le monde connaît, Via le cinéma, notamment, c'est le magnifique Ryu, le dragon tatoué. Alors, dragon qui nécessite tellement d'encre qu'il ne peut pas être réalisé en une seule fois. C'est-à-dire que si on exécutait la totalité du dragon en une seule séance, ben, la personne mourrait intoxiquée par l'encre. Et donc, le dragon va imposer au corps, pour le coup encore subi, une expérience dans la durée. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, alors que le tatouage est par définition une expérience spatiale, le tatouage du dragon chez les Yakuza va imposer une durée et donc une expérience temporelle. Et il se crée entre le porteur du dragon et le dragon une sorte de relation affective qui fait que, bah justement, tiens, dans les autres mois, il n'y a pas forcément besoin que ce soit un vrai moi, il existe une relation presque sentimentale de compagnonnage ou de fraternité entre le porteur du dragon et le dragon. Sans compter que les dragons sont un investissement financier, mais qui est énorme. Hein. Les plus beaux Ryu tatoués chez les Yakuza supposent parfois de faire venir un maître tatoueur chinois de telle province dont le nom m'échappe, spécialisé dans la réalisation d'écailles de poisson. Donc le tatoueur chinois réalise de magnifiques dégradés d'écailles de poisson. Vous voulez ça pour votre dragon, donc vous faites venir le tatoueur chinois au Japon, ce qui suppose de le convaincre de se couper de sa famille, de son village, etc. Donc c'est une certaine somme. Et vous devez l'entretenir pendant le temps de la réalisation du tatouage. Autrement dit, non seulement le tatouage a une valeur, évidemment, il a une valeur symbolique, il a une valeur affective, mais il a tout simplement aussi une valeur financière. C'est-à-dire que l'inscription dans le corps, elle est à valeur multiple. Ça aussi, c'est important. D'autant que la valeur financière est quasiment une valeur morale chez les Yakuza. C'est Jean-Claude Dugnac qui me disait que à Kyoto, tout le monde a des voitures électriques, sauf les Yakuza. Les Yakuza, ils ont des bagnoles américaines qui consomment énormément, etc. C'est-à-dire que la valeur doit être physique, elle doit être explicite. D'où l'importance aussi de la valeur financière du tatouage. Alors, l'autre rituel qui est associé aux Yakuza, c'est le yubitsume, le fait de se trancher la phalange du petit doigt. Mais là aussi, c'est une valeur collective. L'origine de la pratique, elle est obscure, parce qu'il semblerait, selon une des explications, mais je ne vous garantis pas que c'est la seule, qu'au départ, c'est un rituel exclusivement féminin, le rituel du yubitsume. C'est-à-dire que à Kyoto, justement, les prostituées avaient pour coutume de se trancher la phalange du petit doigt pour l'offrir à leur protecteur, disons. Donc, c'est un signe d'amour et c'est un signe qui a été que se sont réappropriés la communauté pourtant très masculine et virile des Yakuza. Mais c'est intéressant, si c'est bien l'origine. C'est vrai que c'est féminin. Et donc, une fois de plus, chez les Yakuza, et de manière générale, le marquage, il y a cette idée que le corps subit, mais qu'il gagne en retour une reconnaissance collective, une reconnaissance sociale. Alors, à ce sujet, je l'ai abordé tout à l'heure dans les questions sur la table ronde du transhumanisme. Il y a un autre livre... Il y a tellement de livres qu'on pourrait conseiller, hein. Mais un autre livre que je vous conseille, parce qu'il dissipe certains préjugés, c'est « Se blesser soi-même » de Baptiste Brossard. C'est publié chez Alma, donc « Se blesser soi-même ». Baptiste Brossard est un sociologue, mais un petit peu franc-tireur. Il a écrit un livre, celui-ci, sur l'automutilation. Et il vient de sortir un autre livre qui est une sociologie des gens atteints de la maladie d'Alzheimer. Autrement dit, il cible toujours des populations mal connues et surtout qui accumule les préjugés, vous voyez, les gens, les laisser pour compte, quoi, plus ou moins avoués de la société. Et le livre qu'il consacre à l'automutilation est passionnant parce que déjà, c'est un livre qui est basé quasi exclusivement sur des interviews. Ça, c'est très intéressant. C'est pas une sociologie de chiffres, c'est une sociologie vécue, et sur une catégorie jeune qui va de adolescent jusque trentenaire, vous voyez. Or, c'est à peu près la tranche d'âge qui concerne les gens qui se livrent à l'automutilation. Et à partir de là, Baptiste Brossard cerne exactement ce qui relève du préjugé, du regard social et de la nécessité personnelle, de la nécessité individuelle. Or, il me semble qu'il a raison, l'automutilation répond dans le jugement à deux regards totalement différents. Du point de vue de la société, c'est condamné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se réclamer de l'exercice de l'automutilation en société. Brossard dit que l'automutilation, elle est arrangée pratiquement au point de vue de la drogue ou de l'alcool, dans le regard, en Occident, hein, bien sûr, hein, dans le regard. Alors que du point de vue des gens qui pratiquent l'automutilation, c'est beaucoup plus compliqué parce que souvent, dans les témoignages, ce qui revient, c'est un système d'autorégulation, figurez-vous. C'est-à-dire que l'automutilation n'est pas faite pour se détruire, elle est faite soit pour empêcher une destruction plus grave, et souvent c'est une destruction psychique, en fait. Donc c'est une espèce de système d'autocontrôle que les gens mettent au point par tâtonnement. Donc soit c'est une destruction psychique, soit c'est un système de purification, c'est-à-dire que symboliquement, en pratiquant telle et telle entaille, je me vide soit des torts physiques, des toxines, etc., soit je me vide de mes mauvais sentiments, mes mauvaises pensées, etc. Et pour étayer sa thèse, Brossard fait remarquer que l'automutilation, très rarement, va s'aggraver. En général, elle atteint un seuil qui provoque d'ailleurs un certain plaisir. Et ce seuil, elle ne le quitte pas, il ne va pas s'aggraver, elle ne le quitte pas tant que la personne n'a pas carrément renoncé à l'automutilation. C'est-à-dire que selon Brossard, et surtout selon les témoignages qu'il a recueillis, l'automutilation est inscrite dans une période donnée. Elle ne s'étendra pas toute la vie et elle ne s'aggravera pas. C'est quand même très intéressant. Oui ? Oui, absolument, bien sûr, et tout à fait. Alors, la notion de réappropriation, il faudrait qu'on en parle, parce que justement, le corps subi va devenir mien, c'est la prochaine phase. Oui, oui, il y a une idée de le faire mien, voilà. Beaucoup plus que, vous voyez, que dans les pratiques qu'on a évoquées de tatouage social, on a pris les prisons russes et les yakuza, où là, ce corps ne devient pas mien, mais il devient vôtre ou nôtre. Ce qu'il est inscrit dans un groupe social. Mais là, oui. C'est, oui.
Dans ce que vous disiez, je fais un parallèle avec, sur l'anorexie, qui est exactement dans le même schéma.
C'est très juste. C'est très juste, monsieur. Oui, oui.
Cette volonté de contrôler l'intérieur par ce qu'on ingère. Quoi,
Oui, alors Brossard, vous avez tout à fait raison. Brossard le compare avec cette idée en faveur de l'automutilation qui est que l'automutilation se stabilise, alors que, hélas, chacun sait que l'anorexie peut conduire à des comportements tragiques. Mais ça, je vous le conseille. Vraiment, c'est une étude qui va dissiper beaucoup d'erreurs et préjugés qu'on a. Mais vous disiez l'anorexie, mais c'est très juste. Déjà, Aristote faisait remarquer que par rapport au corps mien, il y a deux excès, enfin, il y a deux torts. qui sont justement le défaut et l'excès. Le défaut, c'est ce que nous appelons l'anorexie, donc la privation, et l'excès qui est tout autant un agir sur le corps, qui est la boulimie, disons. Oui. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr.
Mais là, en fait, on arrive à ce décalage de perception. On a l'expression « être bien dans sa peau ».
Oui.
Il y a un corps qui met vraiment le décalage entre les deux. Et soit les troubles alimentaires ou d'autres choses, je ne sais pas si on peut mettre l'autonomisation dans ce zone-là, mais c'est le moment où on arrive à des moyens, ou des moyens désespérés, parce qu'on n'a pas de moyens à court terme, et que la pression sociale est trop forte, et la pression personnelle qu'on se met, puisqu'on a le reflet, enfin la vision, on a le reflet que les autres ont encore. Mais aussi un décalage complet. Enfin, on va reprendre l'exemple du médecin cher à 0 degré, qui est persuadé que son corps n'est pas désirable.
Oui. Ouais, puis il y a aussi le fait, alors c'est très juste, mais il y a le fait de cette tension qui était maintes fois décrite, hein, qui est celle de quand est-ce que je suis moi dans mon corps. C'est-à-dire que, par exemple, cherche son nom, l'inventeur de la psychogéographie, un Allemand, sociologue, 1909, j'aurais tout sauf le nom, hein, voilà. Bon, ça me reviendra. Enfin, il est bien avant Carl Gustav Jung, bien avant lui, il avait fait remarquer que on n'est jamais dans son visage. C'est-à-dire que notre visage, il est tout le temps en train de s'adapter à l'environnement. Et bien sûr, l'environnement, ce sont les autres. Hein, la manière dont tu me regardes, la manière dont tu ne me regardes pas. Et donc, je vais te proposer une autre face. C'est les masques de Nietzsche. Hein. On aligne les masques. Dans le dernier, il n'y a plus rien. Très joli. Donc, il y a cette idée que nous sommes tout le temps en représentation. Ce que Carl Gustav Jung appelle la persona. La persona, c'est au départ, le mot persona, c'est le masque du comédien. Or, le masque du comédien, c'est celui qui cache l'identité de la personne qui est l'acteur, et c'est le masque cache et révèle en même temps la personnalité du rôle à jouer. Donc c'est très bien vu d'avoir appelé ce moi social la persona. On a un masque social qui est le moi en démonstration. Voilà. Bon. Mais en même temps, c'est beaucoup plus compliqué puisque ce moi qui traduit les réactions au regard des autres traduit aussi les réactions intérieures. Si j'ai mal, je vais me crisper. Si je suis joyeux, je vais avoir une espèce de libération non contrôlée, vous voyez, ou stupéfait, bon bref, etc. Autrement dit, s'il y a bien quelque chose de difficilement lisible, c'est le visage, puisque le visage traduit en même temps les réactions à nos sentiments intérieurs et les réactions aux sollicitations extérieures. Très étonnant. Donc, quand est-ce qu'on est nous ? Oui ?
Moi, ça me fait penser, c'est une réflexion aussi. Alors, moi, je suis psychomotricienne.
Oui. Oui.
Deux choses différentes qui sont interpénétrées. En gros, le schéma corporel, c'est l'utilisation du corps comme véhicule de son intentionnalité, c'est avoir une topographie de son corps, c'est lié aux sensations, aux ressources sensorielles, aux émotions, etc. Tandis que l'image du corps, c'est lié à la représentation, au social, à l'éducation, aux relations avec les pères. Et ce qui est intéressant, l'articulation entre les deux, soit après dans l'étude plus des pathologies, de la psychiatrie, des dérives type voir en quoi ça peut être scindé quelque part. Et voilà.
Mais c'est très juste et très vrai. Et justement, je comptais aborder la notion de scission parce que, en plus, aux utopiales, dans les genres de l'imaginaire, elle a conduit à beaucoup de littérature et elle est très riche. C'est-à-dire que souvent, dans les littératures de l'imaginaire et dans de nombreuses cultures, donc même dans une perspective anthropologique et pas simplement artistique, le double, la notion de double, c'est le double du corps. Par exemple, il y a William Wilson, il y a Edgar Allan Poe. Donc, quelqu'un, William Wilson, un jour, à l'université, apprend qu'il a fait ceci et cela. Or, il ne l'a pas fait. Ben, c'est un double. Bon. Vous avez bien sûr le portrait de Dorian Gray, où là, littéralement, la représentation est une image. Ce n'est même pas un double vivant, c'est un tableau, là, carrément. Et on pourrait en égrener comme ça. Anthropologiquement, vous avez, par exemple, chez les Australiens, les aborigènes d'Australie centrale, vous avez sous la terre, là en dessous, chacun de nous a son double, exactement localisé dans la terre en dessous de vous. Et à la moindre défaillance de votre part, il vous remplacera, il me remplacera. Peut-être pas d'ailleurs pour le plus mal. Hein. Il n'est pas dit, c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs, il n'est pas dit que le double, enfin, il n'est pas dit que le moi constaté, le moi visible, soit le moi original. Très intéressant ça par rapport à nous. Et effectivement, il y a toute une culture de l'imaginaire, mais aussi religieuse, qui joue sur le moi, disons pour faire simple, concret, matériel, et la représentation de ce même moi. Et la représentation de ce même moi, ce que vous avez joliment appelé scission, est à l'origine de tout ça. Alors, il y a le livre, dans une perspective pas tellement psychanalytique que symbolique, que je vous conseille, c'est Don Juan et le double, d'Otto Rank. Je dis bien symbolique et pas psychanalytique parce qu'il est de formation psychanalytique, mais il n'est pas médecin. C'est-à-dire qu'il évacue toute la question de la cure, ce qui en faisait une sorte d'électron libre dans la première bande, la première... comment il appelait ça Freud, c'était la horde, voilà. Ses premiers sympathisants, c'était... Il appelait ça la horde sauvage. Et Rank avait un peu un rôle à part, parce que ce qui l'intéressait, c'était la dimension symbolique. Et je vous conseille ce livre, qui est une étude, mais vraiment très claire. En plus, il écrit de manière très claire sur ce qu'est la scission et le double. Alors, ce qui est fascinant, alors pour le coup, on est vraiment dans le corps subi, c'est que, quelle que soit la culture, donc d'un point de vue strictement anthropologique, il y a des constantes. Et les constantes, ce sont les suivantes. Dans un premier temps, le double s'impose. C'est-à-dire que je constate l'existence de mon double. Et ce double, il va être entièrement admiratif de moi, donc de celui qui est donné comme original. Dans un deuxième temps, il y a la déception. C'est-à-dire que le double est déçu par cet originel qui fait si peu ou qui fait si mal. Et dans un troisième temps, il y a l'agression, c'est-à-dire que le double veut prendre la place de l'originel. Et effectivement, c'est une structure narrative qu'on retrouve dans quasiment tous les récits à double. Oui. Oui, d'une certaine manière, oui, tout à fait. Oui, oui. Dans les curiosités anthropologiques sur le double et le corps subi, parce qu'il est à double sens, puisque le double imite mon corps et m'impose son corps, parce que dans le corps subi, on a pour l'instant évacué tout ce qui est le corps de l'autre que je subis, sauf avec peut-être Grégor, où je dois subir sa monstruosité, mais il y a le tulpa en Inde, vous connaissez, ou tulpa, je ne sais pas comment on dit. Le tulpa, c'est une projection psychique dans la sagesse indienne qui fait un double strictement équivalent à moi, mais qui est un mauvais moi, mais indestructible. Indestructible. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un tulpa, c'est fini. Il n'y aura pas de happy end. C'est très intéressant aussi. Parce que le double s'impose à mon corps comme mon corps s'impose à moi. C'est très curieux quand même. Voilà. Alors, toujours dans l'imaginaire, c'est sûr que sur le double subi, il y a quantité de récits. Et je pense qu'un des plus importants, c'est L'homme invisible d'H.G. Wells, où, d'ailleurs, il y aura une table ronde consacrée à l'invisibilité, mais l'invisibilité en tant que corps subi, c'est justement la transgression du corps imposé. Et si je pouvais rendre mon corps invisible. Alors, le premier à en avoir parlé, enfin, en tout cas de ce qui nous est arrivé de manière écrite, c'est Platon, dans un ouvrage qui s'appelle La République, c'est le mythe de l'anneau de Gyges. Alors, le mythe dit la chose suivante. Il y a un pâtre, un berger, qui un jour assiste à une sorte de tempête tremontaire, et il y a une sorte de fosse qui est mise au jour. Et dans cette fosse, il y a le corps d'un géant, le Gigantos, Gyges. Et ce géant, il a un anneau, très bel anneau d'or au doigt, c'est un squelette. Hein. Et donc le jeune berger récupère l'anneau qui s'adapte parfaitement à son doigt. Et lorsqu'il le tourne, il devient invisible. Et lorsqu'il le remet en place, il redevient visible. Donc il le fait plusieurs fois pour s'assurer que ce n'est pas accidentel. Alors, déjà, la première réflexion qu'on peut avoir, c'est un des rares cas dans les récits antiques où l'explication n'est pas magique ou religieuse, mais relève de l'ingénierie. C'est un anneau, il était forgé. Il n'est jamais dit que c'est un cadeau des dieux. Ce géant, on ne saura jamais ce que c'est, mais l'explication n'est pas de l'ordre du religieux ou du mythologique. Bon. Et une fois que le berger s'est assuré qu'il est invisible à volonté, il va dans le palais du roi de Lydie. Il séduit son épouse sur un malentendu. Qui c'est qui va croire ça? Franchement. Un berger avec ses chèvres pendant des mois en montagne. Il rentre dans le palais et il séduit la reine. Il ne se rend compte de rien. Donc tout ce qui relève du geste intime, de la caresse, etc., non, elle ne se rend compte de rien. Elle est égrugée. D'autant qu'il est invisible la nuit. Vous voyez l'intérêt, hein. Mais l'explication est donnée au dernier moment, c'est que une fois qu'il a séduit la reine, elle complote contre lui pour abattre le roi et régner à sa place. Ah, ça devient plus clair tout à coup. Voilà, elle est complice. Elle est complice de ce corps. Alors, ce que nous dit Platon, et depuis ça n'a pas varié, Wells fait la même chose, c'est « et si ?» « Et si je pouvais devenir invisible ?» Or, ce qui est très intéressant, c'est que si ce corps subit, j'arrive à m'en dépêtrer, et que donc ça devient un corps agissant, mais un corps agissant qui ne doit pas payer pour ses fautes, ben je m'autoriserai tout. Si vous pouviez devenir invisible à volonté, est-ce que vous seriez parfaitement honnête? C'est pas sûr. Alors, le problème, c'est que ce coup-là, il est valable quand la reine de Lydie n'est visiblement pas très heureuse en ménage et qu'elle attendait que la première occasion pour se débarrasser de son mari. Mais sinon, comme l'a montré l'auteur de ce très joli livre, que Journal d'un homme invisible, que je vous conseille, qui était adapté au cinéma par John Carpenter, Journal d'un homme invisible, c'est que l'invisibilité ne résout rien. C'est-à-dire que si vous mangez, ben, ce que vous avez avalé va être visible le temps de la digestion. Si vous êtes invisible, ben, ça ne veut pas dire que vos vêtements le sont, invisibles. Donc vous allez, comme Griffin dans le roman d'H.G. Wells, courir nu dans la campagne, en plein, dans la neige, ce qui n'est quand même pas une solution idéale, etc. Autrement dit, et c'est ce que Wells rappelle hein, dans son court roman, c'est que le corps subi, dès lors qu'il devient agissant, redevient instantanément un corps subi. C'est-à-dire que j'ai froid, je ne peux pas manger parce qu'on va voir ce que j'ai mangé, je ne peux pas mettre de chaussures parce que je vais laisser des traces dans la neige, sans compter que des souliers magiques qui marchent tout seuls, ça attire l'attention. Autrement dit, il n'y a pas moyen de se dépêtrer de ce corps subi. Oui ? Ouais. Vous avez Carbone modifié de Richard Morgant, magnifique. Ouais. Mais rappelez-vous, dans Carbone modifié, il y a le regard. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le héros a une relation sexuelle avec une femme qui a été incarnée plusieurs fois, et c'est en voyant ses yeux, alors qu'elle a un corps splendide de femme jeune, qu'il voit son âge et que le dégoût l'atteint. Mais moi, je pensais à quelque chose de beaucoup plus concret et ordinaire. C'est, par exemple, l'usage du selfie. Le selfie, c'est une volonté d'agir sur le corps. En fait, on pourrait dire que l'usage du selfie est à ce point codifié que c'est quasiment du théâtre kabuki. Hein. Le selfie, vous ne faites pas n'importe quoi. C'est vraiment, il y a une codification qui est remarquable. Or, il y a un truc qui m'épate, moi, dans l'usage du selfie, surtout, et désolé pour ce qui est du selfie des femmes, c'est la réponse au selfie. La phrase qui est le plus souvent invoquée, c'est « trop belle, ma chérie ». Or, ce « trop belle, ma chérie » est la même phrase qui est utilisée de la quatrième à post-bac. Et là, c'est inquiétant. C'est-à-dire que ce corps qui est à ce point codifié dans le selfie, qui leur devient un corps subi, hein, puisque je ne peux pas faire ce que je veux, justement, mais ce que les autres attendent que je fasse, eh ben, si c'est pour avoir exactement la même phrase, ben, c'est le retour du corps subi. Parce que je vais attendre cette phrase qui est déclinée par des tranches d'âge aussi variées que quatrième à post-bac. C'est assez inquiétant. C'est-à-dire que même dans l'intention d'agir, il y a le pâtir, le fait de subir. Ah, mais totalement. Et d'ailleurs, il y a une très fine analyse de Stephen King dans Anatomie de l'horreur sur ces films dans les années 50 américains totalement improbables, du style I was a teenage monster ou a teenage werewolf ou a teenage alien, et qui, à mon avis, là, il n'a pas tort, qui sont le fait que justement c'est l'âge où ce corps m'échappe, où il revendique des choses auxquelles je ne m'attendais pas, où le corps redevient d'ailleurs, le corps agit, mais il me le fait subir, qu'il était important d'avoir ce type de film. Alors, en fait, loup-garou, extraterrestre ou n'importe quoi, est une manière de rassurer les spectateurs en leur disant « ne t'inquiète pas, il se transforme, ça finira bien et à la fin... tout ira bien. » Voilà, c'est ça. C'est très joli comme analyse. Oui, oui, tout à fait. Il y a toujours eu des... je suis d'accord avec vous. Il y a toujours eu des volontés d'essayer de contrôler. Par contre, je me trompe peut-être, hein, mais il n'y avait pas cette sanction quasi instantanée du regard des autres. On a commencé en disant combien le regard des autres me constitue, mais là, c'est un appel à l'excès du regard des autres. Est-ce que j'ai besoin tout le temps de faire appel à la sanction du regard d'autrui alors qu'elle existe déjà? Pourquoi j'ai besoin de poster ma tête pour entendre chaque jour « trop belle ma chérie » ou ses équivalents, ou « beau gosse » Il y a des autres aussi.
Est-ce que ce n'était pas fait avant parce que les gens n'avaient pas les moyens? Est-ce que ce n'est pas un besoin d'avoir la plus large réalisation possible, du plus grand nombre de pères possibles auxquels on accède maintenant grâce à la technologie, à laquelle avant on aspirait, donc on ne pouvait pas accéder parce qu'il n'y avait juste pas les moyens techniques pour les gens?
Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, oui. Oui, oui, ah oui, c'est certain, ça. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très juste, c'est-à-dire que ça, vous avez entièrement raison, ça monopolise un temps qui fait de fait de mon corps un corps subi. C'est-à-dire que le temps que je dois passer à faire des selfies, puis à attendre les beaux gosses ou trop belles ma chérie qui vont me rassurer. Oui, bien sûr.
Ça me semble un réflexe d'origine. Et la mode vestimentaire, pour le coup, est quelque chose qu'on peut remonter de la Renaissance. Et les modes vestimentaires, des choses qui devaient être faites, c'était extrêmement codifié, etc. Et c'est aussi une manière d'intégrer son corps dans la norme via la manière la plus simple d'en prendre position, c'est les vêtements, parce que c'est ce que les gens vont voir, a priori, dans les sociétés standards de la famille.
Ah, entièrement d'accord, ça on ne peut pas nier que ce soit vrai. D'ailleurs, dans l'intitulé du cours, c'était ça, la coupe de cheveux du Youpi, le col des petites égyptiennes de l'Antiquité, etc. C'est vrai, à ceci près que, mais là pour le coup c'est subjectif, et je me trompe peut-être, il y a quand même une perte du symbole, et j'en veux pour preuve les tatouages. Par exemple, les tatouages... longtemps, n'avait pas besoin d'être exhibé. C'est-à-dire que le tatouage suffit à son porteur, par exemple chez les marins, ou encore mieux les forains, l'usage du tatouage chez les forains. Les forains étant par définition nomades, il y a le très joli texte de Bradbury, sur ça, le m'illustrer. Les forains étant donc nomades, c'est un peu comme des escargots, ils ont leur maison sur eux. Et donc les tatouages étaient leur signe de vie, voilà, leur vie. Bon. Maintenant, le tatouage, c'est un peu ce que dit Rousseau, à force de voir, on ne voit plus. Le tatouage est exhibé. Et je pense que dans cet excès de voir, dans cette monstration, pour reprendre l'étymologie de monstre, celui que l'on montre, y a une perte de symbole. Dans l'excès de voir, on ne voit plus. À trop voir, on ne voit plus. C'est-à-dire que peut-être qu'on a continué des pratiques, on a intensifié des pratiques. Vous me l'accordez, le selfie, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Donc on a intensifié des pratiques, mais on a gagné en quantité ce qu'on a perdu en qualité. C'est-à-dire qu'on a gagné en voir ce qu'on a perdu en sens, en symbole. Peut-être, Ah mais oui, mais complètement. Ça aussi. Il y a quatre. Oui, allez-y.
Et aussi le corps subi. Vous disiez que c'est surtout la naissance, encore plus qu'il change. Et puis on a peut-être envie d'être aidé à accepter ce corps trop subi. Tout à l'heure vous avez parlé de mutilation. Et puis il y a une réaction. La réappropriation, etc. Alors du coup, moi, c'est vrai que j'ai lu un auteur, rituels. Et moi, je cherche des rituels dans tout ça, quand le corps subit est trop dur à subir et qu'on veut se l'approprier. Et il avait, ça il y a une vingtaine d'années, quand il commençait à travailler sur les tatouages, il disait en fait, une hypothèse qu'il donnait, alors ça n'a pas rapport avec les rituels, mais il disait, aujourd'hui, chacun d'entre nous, on a de moins en moins de maîtrise de notre environnement et le corps reste le seul, la peau resterait le seul, la seule zone où on pourrait encore maîtriser quelque chose et on donne à voir qu'on maîtrise quelque chose alors même qu'on maîtrise de moins en moins le boulot.
Ah bah c'est très joli et c'est probablement en partie vrai, oui. Mais en tout cas, j'y souscris. Oui.
Alors le selfie là-dedans, je me demande s'il n'a pas un côté ritualiste et c'est une idée qui m'est venue et je cherche toujours des rituels pour qu'on ne soit pas seul de ce corps subi à le gérer, mais qu'on cherche dans la société des moyens de l'accepter. Et le selfie, bah, avoir en miroir tes belles ma chérie, ça peut aider de temps en temps, même si c'est redondant.
C'est très probable, et peut-être plus que... Sur l'idée d'illusion de maîtrise, moi je suis assez d'accord, hein, oui. Mais peut-être plus que techniquement le narcissisme, c'est la fameuse distinction, vous savez, l'amour propre, c'est l'amour légitime qu'on a de soi. Il faut que chacun s'aime un minimum pour penser à manger, à se laver, à se protéger. Ça, c'est l'amour propre. L'amour de soi, c'est un amour excessif. C'est-à-dire que je vais attendre des autres qu'ils abandonnent leur amour propre pour m'aimer moi. On est déjà plus là. Et à mon avis, c'est plutôt. Et le narcissisme, un vrai narcissique. En fait, un vrai narcissique, c'est rarissime. Parce que les vrais narcissiques, non seulement se fichent que les autres me trouvent beau, mais se fichent que les autres me trouvent laid. C'est ça qui est fascinant. Le narcissique, seul son avis compte. C'est pour ça que dans le mythe de Narcisse, il y a Écho, la nymphe. Narcisse, il est quand même aimé d'une nymphe. Or, je vous rappelle que la plus laide des nymphes est plus belle que la plus belle humaine, hein, quand même. Hein. Ben, il est aimé d'une nymphe, Écho, et ça lui fait rien. D'où Écho, d'ailleurs, elle parle dans le vide, elle parle pour rien. Et je pense que, plus techniquement, je suis d'accord avec vous, mais techniquement, je pense qu'on est dans l'âge de l'amour de soi, c'est-à-dire d'un amour propre excessif. Et on attend des autres qu'ils abandonnent leur amour propre, leur amour légitime d'eux, pour m'aimer moi. Oui ? Oh oui, et c'est très pertinent, mais dans ce cas, ce serait glaçant, parce que ça voudrait dire qu'il n'existe plus que le portrait de Dorian Gray, mais Dorian Gray n'est plus là. On n'a affaire qu'à son portrait, ce qui serait glaçant, mais il serait vraiment dommage que vous ayez raison, et je crains que vous ayez raison. Est-ce que trop belle ma chérie est une validation ?
Au niveau psychologique, psychanalytique, on dit que la recherche continue de l'aval de l'autre, du regard de l'autre, c'est au contraire un déficit.
En quel cas, voilà, vous avez. Oui, oui.
L'attitude de se mettre au sens, c'est parce que Et je fais un lien du coup avec les modes vestimentaires. À cet âge-là, on est beaucoup dans la recherche d'autres pour
Oui. Alors, c'est très possible, mais est-ce que ça remet en cause la notion de corps subi? Parce qu'il y a au moins ce rite qui consiste à faire des selfies, et on va s'étonner que vous ne fassiez, enfin vous à titre générique, hein, que vous ne fassiez pas de selfies alors que les autres font des selfies. Autrement dit, on retrouve quand même une passivité imposée du corps, et donc un corps subi, hein, de nouveau. Un autre. Au début de notre séance, c'était un corps subi, mais qui était un corps mien. C'est le corps que j'ai à ma naissance, un corps avec qui je vais devoir faire. Vous avez raison, je fais telle coupe de cheveux, tel vêtement, etc. Mais ça, c'était, disons, le corps passif normal. Et j'ai pourtant critiqué la notion de norme, mais on se comprend, hein, pour faire vite. Tandis que maintenant, le corps subi l'est par l'attente du... De l'assentiment d'autrui, du jugement d'autrui. Donc, je suis dépossédé, en fait.
On revenait sur la nécessité d'être dans la norme pour faire des selfies. Le problème, c'est, comme on l'a dit, la norme, elle est fluctuante.
Oui, en plus, oui.
Je pense qu'il y a aussi la nécessité de se dire, OK, j'ai été accepté dans cette norme, est-ce que je le suis encore? Et maintenant, est-ce que je le suis encore? Et maintenant, est-ce que je le suis encore? La qualité de la réponse, est-ce qu'elle est? Mais quelque part, même cette réponse générique, c'est...
Ouais, ouais. C'est comme l'usage de Snapchat, par exemple. C'est très étonnant parce que donc, ce sont des images à durée déterminée. Et donc, c'est l'éternelle reconduction du même. C'est-à-dire, je vais me poster une image qui me met dans certaines situations et qui donc serait embarrassante de demeurer. Et donc, elle disparaît et je la remplace par son équivalent. Et donc, on vit dans une espèce de reconduction continuelle du même. On ne progresse pas, c'est tout le temps le même temps. On est dans un jour sans fin, moins la marmotte, quoi. Oui, bien sûr, bah oui, évidemment.
Et quand on va voir son médecin et puis qu'il nous renvoie au miroir, ou un psy, qu'il nous renvoie au miroir ce corps subi, ce qu'on vit, ou la douleur, ou la souffrance, parce que, et il nous aide à mieux supporter ce corps subi. Et si, alors, l'estime de soi, quand elle est très dégradée, effectivement, il y a peu de selfies. Quand elle est oui. Tranquille, il y a beaucoup de selfies, à mon avis. Et quand elle est assez forte, cette estime de soi, il y a moins de selfies et il y a une
ouais.
Situation plus équilibrée.
Je pense,
comment
ouais.
Vit-on?
Ah ouais.
C'est surtout la question des rituels et de la reconnaissance. Il y a quelqu'un qui parlait d'éco-reconnaissance, d'hétéro-reconnaissance.
Ah oui, oui, oui. Oui, oui.
Si on nous reconnaît, si il y a un corps social qui nous reconnaît, notre corps subit à nous, on le vit mieux. Et ça, c'est.
Et c'est marrant parce que l'expression que vous avez utilisée, d'éco-reconnaissance, parce que selon que vous l'écrivez, c'est aussi une parole vide. Hein. Ça dépend comment vous. On ouais, pourrait jouer sur les mots, justement.
Ouais, ouais, ouais.
Oui, 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 mais justement, on pourrait jouer là-dessus. Oui, oui. Alors, figurez-vous que j'ai déjà 5 minutes de retard sur... on est bien, en fait. Hein, mais il va falloir que j'y aille, parce que je dois être en signature, là, depuis 5 minutes, déjà. Bah, ça a été un vrai plaisir, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui attend. Il y a une conférence là qui attend.
Je crois pas.
Parce que j'étais en train de déborder joyeusement.